Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le vendredi 10 janvier, il est 7h.
La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, c'est l'Iran pointé du doigt après le crash du Boeing ukrainien à Téhéran. Est-ce bien un missile qui a battu l'appareil et surtout était-ce intentionnel? On se pose la question ce matin. Un jeune homme devenu un héros grâce à une appli mobile. Il a réussi à sauver la vie d'un nourrisson. Nous vous raconterons l'histoire. Et puis, dans un quart d'heure, l'invité éco ce matin, Pierre Ferracci, le président du groupe Alpha, c'est un proche d'Emmanuel Macron. On parlera avec lui de la réforme des retraites. Reculer sur l'âge pivot ne suffira pas. Les grévistes étaient clairs hier. On lui demandera ce qu'il en pense.
Radio Classique.
Mais tout d'abord, l'actualité internationale. Sophie Echen, l'avion ukrainien qui s'est écrasé mercredi à Téhéran a-t-il, oui ou non, été abattu par un missile iranien?
C'est en tout cas ce que demandent les premiers ministres anglais et canadiens Boris Johnson et Justin Trudeau depuis hier soir. Ce Boeing 737 transportait 176 personnes, des Iraniens et des Canadiens majoritairement. Tous sont morts dans ce crash. Bonjour Lucille Bréau.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Si Justin Trudeau a été le premier à affirmer que l'appareil avait été abattu par un missile sol-air iranien, il reste toutefois prudent, ce n'était peut-être pas intentionnel, dit-il.
Il faut d'abord rappeler que cette nuit-là, l'Iran a tiré pas moins de 22 missiles vers des bases américaines situées en Irak. Alors, est-ce que l'un de ces engins aurait frappé par erreur l'avion? C'est ce que les experts vont devoir déterminer. Des images satellites confirmeraient cette hypothèse. Les boîtes noires, elles, n'ont pas encore parlé. Gérald Felzer est spécialiste de l'aviation.
Si ces observations satellites, notamment livrées par des Américains, ont vu ce missile atteindre cet objectif, à ce moment-là, la preuve est faite. Et on n'a pas besoin d'attendre les boîtes noires. Ça va être difficile, difficile d'ailleurs pour les Iraniens eux-mêmes, parce que ça va les fragiliser. Ils auront probablement tendance à refermer l'enquête le plus possible.
L'Iran qui dément de son côté formellement qu'un de ces missiles soit en cause. Une cinquantaine d'experts ukrainiens sont arrivés sur place hier pour participer justement à l'enquête. Les États-Unis vont également y prendre part à la demande de Téhéran.
Merci Lucille Bréau. Une étape importante pour le Brexit franchie hier. Après 3 ans et demi de crise, les députés britanniques donnent enfin leur feu vert au grand saut hors de l'Union européenne. Un vote aux conséquences historiques pour le Royaume-Uni et une victoire pour Boris Johnson. Cet accord ouvre désormais la voie sur une sortie de l'UE le 31 janvier. En France, une autre question ce matin. Comment sortir de l'impasse sur la réforme des retraites? Alors qu'une nouvelle journée d'action a rassemblé 452 000 manifestants hier partout en France, selon le ministère de l'Intérieur, 1,7 million selon les syndicats. Pourtant, le gouvernement l'a redit hier, il restera ferme sur l'âge pivot. De leur côté, les manifestants restent très déterminés. C'est ce qu'a constaté Rémi Pfister dans le cortège parisien.
Cécile est conductrice de train en grève depuis 36 jours. Le retrait de l'âge pivot, pour elle, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Personne ne fait grève pour l'âge pivot. Nous, on fait grève pour le retrait de la réforme complète. C'est un mouvement qui est long, qui est compliqué, c'est sûr, mais on est déterminé. Et après 36 jours de grève, on n'aura pas fait ça pour rien, hein, on continue. L'opposition à la réforme, il est massif et pas seulement dans les secteurs en grève.
Dans le cortège, on croisait pour la première fois de nombreux avocats, plusieurs centaines. Sylvie, avocate au barreau de Paris, se dit prête à des actions jusqu'au retrait de la réforme.
Ça peut être faire renvoyer les affaires, ça peut être faire la grève du zèle. Si on décide de bloquer le système judiciaire, on a les moyens de le faire. Placer plusieurs fois les mêmes dossiers devant le tribunal, ça bloque le système. Il faut savoir arrêter une grève, mais il faut aussi savoir arrêter une réforme. La grève ne s'arrêtera pas, il faut que la réforme s'arrête.
La colère des profs ne faiblit pas non plus. Près d'un enseignant sur deux était mobilisé selon les syndicats. Pour Sabrina, prof dans un collège, la détermination est intacte.
Certes, on a eu la pause entre guillemets des vacances, mais pendant les vacances, on a été très actifs en se rendant dans les manifestations, en allant soutenir les collègues de la RATP. La seule solution, c'est qu'ils retirent leur projet, qu'ils réfléchissent à autre chose et tout ira bien.
Une manifestation émaillée d'incidents, des black blocs ont affronté les forces de l'ordre lors de la dispersion du cortège.
Reportage de Rémi Pfister et l'intersyndicale appelle à 3 nouvelles journées d'action les 14, 15 et 16 janvier prochains. Vous l'entendez, si l'âge pivot cristallise le débat depuis plusieurs semaines entre syndicats et gouvernements, ce n'est pas sur cette mesure que la contestation populaire se focalise. Pour calmer la colère, la retirée ne suffira pas, selon Raymond Soubi, ex-conseiller social de Nicolas Sarkozy et président du groupe de conseil Alixio.
Les conflits que nous connaissons aujourd'hui ne portent pas du tout sur l'âge pivot. Le sujet de l'âge pivot est un sujet de relation avec la CFDT, de symbole d'ouverture à l'égard de l'opinion qui est contre l'âge pivot, mais n'est pas une réponse au conflit qui existe aujourd'hui dans le secteur public ou le secteur privé. Laurent Berger veut avoir un point de contestation à l'égard du gouvernement qui ne porte pas sur la réforme systémique. Et il ne veut pas apparaître trop comme étant un allié du gouvernement dans cette réforme. De là ce jeu qui, pour partie, est un jeu politique.
Voilà, Raymond Soubi, l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. En tout cas, le calendrier de la réforme très resserré n'a pas bougé, hein, Sophie.
Le texte sera présenté en Conseil des ministres le 24 janvier avant d'être débattu à l'Assemblée nationale à partir du 17 février. Un texte est parti au Conseil d'État, a indiqué le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau. C'est une étape à laquelle le gouvernement ne peut déroger, Victoire Fort.
C'est l'article 39 de la Constitution. Avant la présentation en Conseil des ministres, tout projet de loi passe d'abord place du Palais Royal, entre les mains des conseillers d'État. Ils délivrent un aval sur la conformité du texte à la Constitution et aux traités internationaux. Marie-Laure Basilien-Guinche, professeure en droit public à l'Université Lyon 3.
Le Conseil d'État va voir ses formations compétentes travailler sur le projet de loi. Alors, soit proposer une modification du projet, soit annoter le projet de loi.
Pour statuer, le Conseil d'État ne demande aucune étude d'impact, son avis est purement juridique, mais des allers-retours avec le gouvernement sont possibles. Âge pivot, pénibilité, régime dérogatoire, le texte est loin d'être abouti, le sujet est complexe et le calendrier serré.
Cela semble un peu court. D'accoutumée, le gouvernement adresse les projets de loi en moyenne un gros mois avant la présentation au Conseil des ministres.
L'exécutif veut aller vite, jusqu'au bout de la procédure législative. Dans l'hémicycle, les discussions devraient durer 2 semaines. C'est ce qu'on appelle la procédure accélérée. Une seule lecture par chambre, de quoi faire grincer les dents de beaucoup de parlementaires.
Les explications de Victoire Fort et ce matin, les partenaires sociaux ont de nouveau rendez-vous avec le gouvernement pour parler de la conférence de financement de la réforme. 37e jour de grève aujourd'hui avec un léger mieux dans les transports par rapport à hier. La SNCF prévoit 4 TGV et 3 TER sur 5, seulement un tiers des intercités. Situation toujours compliquée dans le métro parisien. Toutes les lignes sont ouvertes, mais tous les arrêts ne sont pas desservis.
Enfin, Sophie, sauver des vies grâce à une appli mobile. Ben c'est possible.
Oui, grâce à Save Life, une application créée par un médecin urgentiste du SAMU de Paris. C'est assez simple, il suffit d'activer la géolocalisation de son téléphone portable et dès qu'une personne en arrêt cardiaque se trouve à proximité, eh bien vous êtes alerté directement. C'est justement ce qui est arrivé à Théo. Ce jeune homme de 22 ans a pu réanimer un bébé de 6 mois.
Je reçois une notification sur mon application Save Life m'indiquant qu'une personne est en arrêt cardiaque dans la zone. Lorsque j'arrive sur les lieux, je découvre un nourrisson qui est posé sur le capot d'une voiture en train d'être massé par quelqu'un sous les conseils du pompier qui est au téléphone. Je prends alors le bébé dans les mains en me présentant en tant que secouriste. J'ai massé ce nourrisson pendant 3 à 4 minutes. Une fois les pompiers arrivés sur place, je leur laisse le nourrisson, ils prennent le relais. Je ne considère pas être un héros et je ne m'identifie pas du tout à ce terme. Ce sont les pompiers et le SAMU qui, en se coordonnant, ont pu sauver cet enfant.
Des propos recueillis par Lucie Coquart.
Merci Sophie Echen. Enfin, on souhaite bienvenue au monde à Mao, qui est né le 4 janvier. Sa maman, pour l'anecdote, ça s'est passé à Toulouse, n'a pas eu le temps d'arriver à la maternité. Son mari l'a donc aidé à accoucher dans leur voiture, en pleine rue, donc à Toulouse, tout en écoutant Radio Classique sur l'autoradio. Une naissance en musique, quand même, qui nous a été racontée par le papa lui-même sur les réseaux sociaux. Vous aurez toute l'histoire tout à l'heure dans le journal de 8h que vous présenterez, Sophie. Merci à vous. Dans un instant, l'édito éco de François Vidal. Et juste après l'invité éco de Radio Classique, Pierre Ferracci, le président du groupe Alpha 7h09.